Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour l'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et voici d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Voici un premier livre qui nous paraît intéressant pour nos éditeurs et auditrices. C'est un livre d'une grande richesse, écrit par un écrivain qui est aussi un poète. Il s'agit de La dictature du partage. Ça peut trouver un peu choquant, dictature du partage, et l'éloge de l'incommunicable. L'auteur, c'est Christophe Langlois. Il est écrivain, auteur de nouvelles et de poèmes. On peut citer « Boire la tasse », »,« Finir en beauté » comme nouvelle, et en poésie, un très beau livre, « L'amour des lampes des tours ». Est-il intolérable de sous-entendre que le partage si insuffisant en certains endroits du globe aurait atteint en d'autres lieux son paroxysme pour y devenir comme une nouvelle forme d'esprit totalitaire? Jamais n'ont autant foisonné les moyens de communication au moment même où faillit de manière alarmante la confiance en l'humanité commune. Notre vie dépend à tel point de ces nouveaux modes d'effusion technologique qu'on pourrait se dire en pleine partagitude tant ils semblent pulsionnels. Oui, j'ai bien dit partagitude. Alors, comptant sur Clouding, la 4G, l'Internet of Everything, pour la fluidité encore davantage. Personnellement, on en entend beaucoup, le smartphone rame un peu. On nous promet l'enthousiasme d'une bonne vague pour les surfeurs, que beaucoup sont devenus depuis 20 ans. Quel plaisir d'ailleurs, contacter au plus vite quelqu'un, s'assurer d'être bien compris, réjouir un être cher par l'envoi des photographies, bondir de joie ou frémir ensemble devant l'actualité, n'est-ce pas vital? Il règne au cœur du net une curiosité et un désir d'aller au-devant d'autrui qui en sont les clés. Selon l'expression de Pierre Teilhard de Chardin, nous pouvons y discerner les efforts sacrés d'une naissance. Quand on assiste en spectateur un peu désabusé à la messe, on comprend ça et là qu'il s'agit bien d'un partage. Prenez et mangez-en tous, et la paix soit avec vous, parle à toutes les oreilles. Le mouvement de communion signifie bien un déplacement, le fait même d'entrer dans une église aussi. L'église serait d'ailleurs, au sens étymologique, ecclésia. Cette assemblée faite de personnes qui sortent de chez elles pour se réunir. Sortir, ce mouvement est important, nous le sentons confusément quand nous refermons notre porte. Au fond, Dieu se donne en nourriture, on le chante en tout cas, pour vivifier son peuple, être présent au milieu de lui. Mais il reste invisible, une part en dérobe toujours au partage. Oui, une part se dérobe ainsi dans cette communion. La relation vivifiante entre Dieu et les hommes semble jaillir de deux mouvements conjugués comme une danse de l'homme qui sort de chez lui pour chercher Dieu et de Dieu qui part à la recherche de l'homme. La poétesse Alda Merini, qui a vécu de 1931 à 2009, écrit ainsi « Il m'a rendu jeune vieille à mesure des saisons, il m'a fait fleurir et nourrir, oui fleurir, fleurir et fleurir une infinité de fois. » Mais je sais qu'il m'aime, et je te dirai, mais si tu ne crois pas, qu'il annonce toujours par une grande fraîcheur dans tous les membres, il s'annonce ainsi. Et voyez le monde pour la première fois, comme cela, quelle beauté, et cela, c'est la foi, et celui-là, C'est lui qui te cherche n'importe où, même quand tu te caches pour ne pas te faire voir. Étrange cache-cache, image poétique de ce qui se passe dans l'amour qui veut être deviné, faire l'objet de détours, de requêtes plus ou moins claires, l'amour qui exige surtout la présence plus ou moins claire, la présence de Dieu qui semble se dérober toujours, et l'évidence de la petite enfance nous rappelle ce besoin impérieux de présence. Une main s'accroche à nous, la nôtre s'est accrochée à celle de quelqu'un. Alors, lisez ce livre et vous ouvrirez des yeux et des oreilles pour voir votre matinée, votre journée et tout le joli mois de mai en beauté.
Je vous parle à présent d'un livre qui vient d'être édité chez MAM en février donc de cette année et qui contient un texte officiel du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Texte rédigé par Don Maurizio Compiani pour l'année de la miséricorde et dont le titre est « La confession, sacrement de la miséricorde ». Comme son titre l'indique, ce texte met l'accent sur la confession et vient compléter très pertinemment tous les livres qui sont parus en cette année du jubilé de la miséricorde. Car, de fait, nous avons vu dans ces livres à quel point le pape François a souhaité à cette occasion mettre l'accent sur la réconciliation avec Dieu et donc sur le sacrement du pardon. Ce petit livre reprend donc un grand nombre de paroles du pape François et en développe le sens pour mieux comprendre la place de la confession dans la foi chrétienne. L'argumentation va se développer à partir de textes bibliques. Un premier évangile commenté est tiré de Marc, chapitre 2, la guérison d'un paralytique, pour nous montrer comment Jésus lui a offert d'abord le pardon de ses péchés avant de le guérir, ce qui provoque le scandale que l'on sait dans le peuple juif, puisque Dieu seul peut remettre les péchés. Un autre commentaire ensuite d'un deuxième évangile, c'est bien sûr la parabole du fils prodigue, qui va développer la relation au Père miséricordieux. Puis vient le commentaire qui se concentre sur la prière du Notre Père et la question de la remise des dettes, donc du pardon des péchés, mais dans le sens « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Donc c'est illustré par la parabole du bon roi et du serviteur impitoyable, tirée de Marc chapitre 18. Et enfin, dernier commentaire axé sur l'Esprit Saint, qui se concentre dans le texte tiré de l'évangile de Jean. Enfin, le livre se conclut par des réflexions pastorales pour encourager à demander le sacrement de la réconciliation, pour former les consciences et éduquer au sens de la pénitence, sur le plan personnel bien sûr, mais aussi d'un point de vue communautaire, pour fortifier l'unité de l'Église. Les éléments importants que ce livre met en évidence, c'est d'abord le constat d'une perte du sens même du pardon dans le monde actuel, parce qu'en fait, on n'a plus du tout conscience du péché. La conviction de la relativité du bien et du mal a permis, en fait, d'évacuer toutes les crises de conscience et a laissé la place, nous dit l'auteur, à l'affirmation de soi comme seule règle de vie et comme seul credo reste l'esprit de compétition. Donc, pas facile de proposer la confession et la miséricorde à une humanité qui a évacué l'idée même du péché et de la nécessité du pardon. D'autres difficultés sont signalées et qui apparaissent au cœur même de l'Église, où l'on constate une désaffection généralisée de la pratique de la confession pour diverses raisons. Soit la conviction que la médiation sacerdotale est inutile, ou soit que cette médiation est trop mal perçue, étant donné la faible disponibilité des prêtres, et aussi le manque de confesseurs suffisamment compétents. Mais il y a plus généralement, semble-t-il, le problème de la perte du sens intérieur de l'évaluation de ce qui se passe dans nos vies. Alors je cite, « Les consciences assoupies ou résignées qui ont perdu le discernement spirituel et se contentent donc d'une religion de surface ». Je cite encore, « La vie de foi en est comme vidée, dévitalisée, sans enthousiasme, une triste habitude de vie. » Donc l'auteur nous dit que cette incapacité à faire l'examen de sa propre conscience est une sorte de maladie qui empêche la grâce et qui finit par empoisonner non seulement la vie de foi, mais la civilisation tout entière. Il est donc urgent de remédier à tous ces problèmes et ce livre propose bien sûr des solutions et des pistes de conversion. Je vous rappelle le titre du livre, « La confession, sacrement de la miséricorde » qui est paru en février 2016 aux éditions MAM.
Voici un autre livre d'un théologien dominicain. Ce livre de Jean-Michel Garrigue, « Dieu sans idée du mal », paru aux éditions Ad Solem au mois d'avril 2016. Jean-Michel Garrigue est un dominicain. Il a notamment prêché le carême à Notre-Dame de Paris de 1992 à 1994. Il a collaboré à la rédaction du catéchisme de l'Église catholique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de théologie et de spiritualité. Le regard de Dieu nous saisit dans la fraîcheur de son acte créateur qui est à l'origine de notre existence. Jean-Michel Garrigue nous invite à trouver dans le regard miséricordieux de Jésus le charme parfois neuf, mais plutôt toujours neuf, du regard divin qui nous choisit en nous appelant à l'existence. Dieu ne considère pas le mal en nous, en effet, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors, qu'est-ce que le mal ? Il n'est que la falsification de notre vrai bien, une privation d'être, laquelle est possible que dans ces créatures pour lesquelles l'être est un avoir, qu'elles peuvent en partie perdre. Le mal moral est une partie du bien que l'homme désire et qu'il absolutise à la place du bien divin. Dieu peut-il être vaincu par le mal ? Non, car dans son agonie, l'amour rédempteur va aimer sans considérer le refus toujours possible de la créature. Le Christ avance dans sa passion, les yeux voilés à travers la contradiction du mal. Il va aimer malgré le refus, il va aimer à partir de son amour créateur. Dieu, sans idée du mal, fait partie des meilleurs ouvrages de spiritualité dominicaine. Voilà ce qu'écrit le cardinal Schönbrunn, archevêque de Vienne, Autriche, qui est aussi dominicain. Voilà un passage. La bénédiction, comme le vin, peut enivrer l'homme. Dans son ivresse, l'homme devient comme fou, parce qu'il se croit plus qu'il n'est. Cette surabondance de vin lui tourne la tête, lui monte à la tête, autrement dit, l'enorgueillit. Or, précisément, dans l'ivresse de son orgueillissement, l'homme montre sa nudité. Au moment où il croit être quelque chose, son néant apparaît pour sa honte. Tous les textes de l'Ancien Testament sur la coupe tournent autour de ce point. Mais pire encore que celui qui s'enivre lui-même est celui qui tend la coupe aux autres pour les enivrer, voir leur nudité et se moquer d'eux. Il est encore plus condamnable. La bénédiction devient malédiction pour celui qui s'enivre, mais plus encore pour celui qui enivre les autres. C'est un livre un peu exigeant qui mérite d'être lu. Et c'est une lecture qui enrichira le lecteur, lui permettra de progresser dans sa connaissance d'une théologie à la portée de chacun, mais il faut prendre le temps que Dieu nous offre pour approfondir ce que nous sommes et que nous révèle cette méditation sur un Dieu libre qui rend l'homme libre de ses attaches.
Je vous présente un deuxième ouvrage de l'historien et théologien André Paul. Son titre, « Croire aujourd'hui dans la résurrection ». Il est paru en février dernier aux éditions Salvator. André Paul, vous le savez, est un auteur prolifique qui, depuis quelques années, nous offre un livre par an. Il a fait paraître en 2014 son essai sur Eros enchaîné et en 2015 un essai sur la famille chrétienne. Et à présent, il se penche sur la foi en la résurrection. André Paul est donc historien, spécialiste des textes et des doctrines de l'Antiquité tardive, qu'elles soient gréco-romaines, juives ou chrétiennes. Et c'est par une enquête historique approfondie qu'il remonte ici à la source de la foi en la résurrection, en dévoilant son apparition progressive au cours des siècles. Il décrit d'abord les croyances en l'au-delà sous forme de ciel et d'enfer, auxquels on accède par les rêves, les transes ou les visions, et dont on peut obtenir des messages, mais pour mieux vivre finalement la vie terrestre ordinaire. Mais très tôt dans l'histoire, l'être humain a été porté à refuser la mort. Ainsi, il nous décrit dans la culture grecque le moment où germe l'idée de vie éternelle, mais pour les âmes seulement, qui se dissocient des corps. Des âmes qui vont subir les conséquences de leurs actes après la mort du corps et ensuite revenir, selon leur mérite, dans une nouvelle incarnation, conformément donc à la doctrine de la transmigration, l'éternel retour des âmes. Plus tard, le judaïsme lui aussi arrive à la croyance en l'immortalité des âmes, du moins dans certains milieux juifs comme le milieu pharisien, et nous en avons des traces dans les textes bibliques tardifs comme le livre de la Sagesse ou le livre des Maccabées. Et en même temps, le christianisme arrive et apporte une nouvelle croyance, celle de la vie éternelle de la personne entière, c'est-à-dire de l'âme avec son corps, ce qui donne un tout autre sens à la mort. La mort n'est plus seulement le retour des corps au néant, mais un passage nécessaire pour accéder à la vie, mais autrement. L'auteur nous explique la nouveauté du rapport au corps qui vient dans le christianisme de la dimension nouvelle qu'apporte l'esprit qui engendre une vie personnalisée, c'est-à-dire celle d'un être humain assumé une fois pour toutes comme distinct de tout autre. Après la mort, la résurrection du corps n'est absolument pas une restitution de ce corps à l'identique, mais bien sa recréation dans l'esprit, en vue d'une vie transformée, nouvelle, éternelle. Donc André Paul commente en particulier les paroles de Jésus qui répond aux attaques des Sadducéens qui ne croyaient pas à l'existence de l'âme à propos du mariage. Je vous cite donc Jésus qui dit « Les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari ». Mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et donc André Paul nous parle du corps de résurrection, montré comme un corps spirituel, ayant dépassé la distinction entre masculin et féminin. Et ce qui est important, nous dit-il, c'est que la mort ne peut pas être évacuée de cette transformation spirituelle du corps. La résurrection a besoin de la mort comme passage nécessaire, comme tremplin vers une vie restaurée, elle-même fruit d'une recréation totale, totalement nouvelle, non seulement du corps, mais de la personne dans sa globalité. La mort est ainsi un début et non une fin. Et André Paul nous suggère alors de bien réfléchir dans tout un chapitre sur l'utopie transhumaniste qui occupe aujourd'hui les savants et les techniciens, autant que les financiers du monde entier, pour nous préparer une immortalité de synthèse à base de machines aux virtualités éternelles. Donc qui nous promet une immortalité qui sera bien sûr réservée à un petit nombre de nantis et aux quelques élus qui détiennent la science, et dont il dit qu'il s'agit en fait d'une nouvelle gnose qui, par haine du corps, veut évacuer la mort et ainsi évacuer toute possibilité de croire en la résurrection. Je vous conseille ce livre, bien qu'il ne soit pas forcément très facile à lire, je le reconnais, parce que l'auteur s'appuie sur une flamboyante érudition. Mais ce thème est tellement important, il me semble qu'il vaut la peine qu'on fasse l'effort de le lire. Je vous en rappelle son titre, « Croire aujourd'hui dans la résurrection », donc d'André Paul, paru en février 2016 aux éditions Salvator. Et nous arrivons au terme de notre émission. Et je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.